Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour, de 13h à 14h, nous mettons en avant des Françaises et des Français qui ont des idées, qui osent. Et ensemble, on écoute le monde changer. Vous êtes au bon endroit aussi pour découvrir des parcours de vie autour d'histoires entrepreneuriales. La France bouge sur Europe 1. On en parle avec Emmanuel Duteil. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Comment voyagerons-nous demain ? Invité exceptionnel de la France bouge, Jean-Baptiste Djebbari. C'est le ministre en charge des transports et il est avec nous pour répondre à toutes ces questions jusqu'à 14h.
À la une en effet. Tiens, et si l'hydrogène était la solution d'avenir pour la mobilité ? Olivier Lombard en est persuadé, il a été le vainqueur des 24 heures du Mans en 2011, il avait seulement 20 ans, il veut révolutionner l'industrie automobile, pas avec du 100% électrique mais avec de l'hydrogène. Opium, c'est le nom de sa start-up et on la découvre d'ici quelques minutes.
Le métro parisien fait partie des plus anciens au monde et ce sera notre saga du jour vers 13h30.
Il ressemble à une moto, il est fabriqué en France et pourtant c'est un vélo électrique, bicycle, c'est le pitch du jour des trophées de l'avenir. Et on attend 13h45 pour le découvrir.
Et puis demain au travail, ils ont changé de vie et ça nous inspire. Eric était banquier, aujourd'hui il fait de la thérapie par le cheval. Pourquoi donc ? Eh bien il nous racontera ça en fin d'émission.
Bienvenue dans La France bouge, c'est parti. Vous pouvez nous suivre sur Europe1.fr, Twitter ou encore Instagram. Il y a des très jolies photos à les regarder. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Et vous le savez, si vous êtes des habitués d'Europe 1, on écoute le monde changer ici. Et bien parmi ce qui change, c'est la façon dont nous allons voyager demain. Et une fois de plus, on va répondre à toutes vos questions.
Bonjour Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour à vous deux.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1.
Ravi d'être là.
Vous, nous aussi, on est ravis que vous soyez là. Vous êtes le ministre délégué chargé des transports. Vous-même, vous êtes pilote de ligne. Avant d'en venir à comment nous allons voyager demain, parce que c'est la grande question que nous nous posons tous, on va d'abord commencer par une question d'actualité, si vous le voulez bien. Jean-Baptiste Djebbari, l'Italie annonce 3 milliards d'euros pour aider les Italiens à faire face à l'envolée des prix de l'énergie. Parmi les fortes hausses, il y a celle du carburant, 60% du prix. Ce sont des taxes. Allez-vous prendre des mesures concrètes pour aider les automobilistes ?
On aura un débat budgétaire sur ce sujet, mais pour rappeler quand même les causes, et il faut en parler de l'augmentation, et ça fait d'ailleurs le lien avec le sujet de l'émission, les causes de l'augmentation des prix de l'énergie, et notamment des carburants, sont essentiellement dues à, d'une part, la reprise américaine, qui tire le prix de l'énergie vers le haut, et évidemment au prix du baril de brut. Or, vous savez que nous ne sommes pas producteurs de pétrole, donc nous subissons ces prix, raison pour laquelle nous avons un intérêt objectif à sortir du pétrole, non seulement pour des considérations environnementales, mais aussi pour évidemment cette dépendance géopolitique et économique. Et que par ailleurs, et c'est la réponse plus politique à votre question, nous avons mis en place une grande politique pour le pouvoir d'achat. Parce que le sujet derrière, évidemment, pour les Français, c'est le pouvoir d'achat.
Il y a eu le chèque énergie, mais vous avez commencé votre réponse par « on aura un débat budgétaire ». Ça veut donc dire « on est ouvert à des solutions pour aider notamment les automobilistes à payer moins cher leur litre d'essence ?»
Une réponse complète, mais je réponds à votre question évidemment. La réponse est d'abord ce qu'on a fait pour le pouvoir d'achat, et j'ai eu l'occasion de le dire, mais depuis 2017, quand on regarde simplement la baisse de la fiscalité, taxe d'habitation, impôt sur le revenu, les Français ont gagné entre 800 et 4600 euros par an.
Mais là, histoire de ne pas tout leur prendre d'un coup avec la hausse des prix de l'énergie.
Donc ensuite, des solutions, elles sont connues, les solutions conjoncturelles, de court terme. Ça a déjà existé. C'est d'ailleurs proposé par certains candidats, ça s'appelle les taxes flottantes, ça nécessite de neutraliser les hausses et de faire repartir les taxations à la hausse quand le prix de la matière première baisse. Bon, c'est une solution purement conjoncturelle. Vous l'avez compris, nous faisons une politique de soutien au pouvoir d'achat, qui est massive et qui porte ses résultats. Il y a un projet de loi de finances qui a été déposé sur la table du Parlement, il y aura un débat budgétaire. Et par ailleurs, comme ces sujets ne sont pas traités par le ministère des Transports, mais bien par le ministère des Budgets.
Ce qu'on comprend, s'il y a des bonnes idées qui arrivent,
on les regardera. Il y aura des mesures concrètes.
En tout cas,
ça vous pouvez nous le dire.
Il y a un débat parlementaire, c'est le sens de la démocratie. Il y aura un débat parlementaire. Et moi, je veux dire à ceux qui nous écoutent que ce gouvernement a fait énormément pour le pouvoir d'achat, ce qui permet là aussi d'être une réponse totalement structurelle pour avoir davantage de ce qu'on
appelle. Je ne suis pas sûr que ça réponde tout à fait au fait que quand on va faire notre plein, on a quand même l'impression que ça coûte en ce
mais
moment
du coup,
un bras.
C'est le deuxième point de ma réponse. C'est qu'il faut sortir de cette dépendance au pétrole, quoi qu'il en soit. Parce que cette question que vous posez aujourd'hui, on se la pose depuis des années.
Mais on va y venir pendant l'émission sur l'hydrogène
donc,
électrique. On va aborder tout cela.
On monte à bord du train, si vous voulez bien, Jean-Baptiste Djebbari. La SNCF a annoncé hier deux nouvelles lignes de Ouigo, Paris-Nantes et Paris-Lyon. Ça va être avec des intercités. Ça mettra 4 heures, par exemple, même un peu plus, pour faire un Paris-Nantes. Alors, prix défiant toute concurrence, hein, 10 à 30 euros. L'avenir, c'est l'éloge de la lenteur ?
L'avenir, en tout cas, c'est certainement les petits prix et retrouver des modes de déplacement qu'on avait perdus. Je prends un exemple, celui que vous citez est très bon, mais les trains de nuit. On avait, rappelez-vous, arrêté le train de nuit entre Paris et Nice il y a 3 ans parce qu'on nous disait qu'il n'y avait pas de modèle économique.
On l'a relancé, toujours pas, en l'occurrence.
On l'a relancé en mai dernier.
Mais c'est mitigé, les réservations, quand même.
On l'a relancé en mai dernier, avec des petits prix, 19, 29, 39 euros, et le train est quasiment plein, tout le temps. Beaucoup plus plein qu'à l'époque où il roulait encore.
Mais il y a quand même des start-up qui se positionnent, qu'on a reçues, nous, dans la France Bouge, qui se positionnent sur ce marché des trains de nuit.
On a autorisé, d'ailleurs, hier à opérer. On a pris l'arrêté qui en fait officiellement une entreprise ferroviaire, comme on dit dans le jargon, et c'est très bien. Mais je veux dire par là que c'est aussi un phénomène européen. Le Bruxelles-Vienne, train de nuit, était de la même façon pas rempli à 3 ans, renoncé aux 4 ans, renoncé il y a 1 an et demi et plein. Donc certainement qu'il y a un phénomène qui s'est passé, notamment chez les jeunes, qui sous la pression sociétale, environnementale, se mettent à préférer de nouveau des modes de transport plus longs. C'est la raison pour laquelle nous relançons ces modes, à la fois avec des
petits... Et pourquoi juste le Paris-Nantes et le Paris-Lyon? Pourquoi on ne lance pas des Ouigo partout en France, du coup, comme ça, en concurrence du TGV qui coûte un bras pour la plupart d'entre nous?
D'abord, c'est une offre complémentaire. Vous savez que ce n'est pas tout à fait la même offre de service chez les Ouigo que dans les TGV Inouï et la SNCF. D'ailleurs, le modèle Ouigo a lui-même évolué. En plus, c'était un modèle plutôt sur les gares secondaires, intermédiaires. Aujourd'hui, vous avez des Ouigo qui partent des gares principales. Donc, il y a aujourd'hui une très grande complémentarité entre les offres plutôt petit prix de Ouigo et l'offre avec des services plus complets de la SNCF, notamment avec les TGV Inouï.
Donc, la SNCF offre des petits prix au dernier moment. Il suffit d'aller se connecter en dernière minute. Elle a lancé aussi, la SNCF, des forfaits, notamment pour ceux qui télétravaillent. Est-ce que vous pensez, Jean-Baptiste Djebarik, c'est suffisant parce que ce mode de vie est entré de plus en plus dans nos habitudes?
D'abord, c'est une réalité. C'est qu'on observe là, depuis la reprise, qui est une reprise partielle pour les transports, qu'on a environ 15% de fréquentation en moins. C'est variable dans le territoire et selon les périodes, mais ça correspond essentiellement à des personnes qui ont choisi de télétravailler un jour, deux jours par semaine. Et c'est notamment le cas de la clientèle affaires qui se déplace moins qu'avant. C'est vrai sur le TGV, c'est vrai sur l'avion. Et ça, nous pensons, nous anticipons que cette baisse est assez structurelle. De la même façon qu'on a de plus en plus de personnes, et ça s'est traduit un peu dans les prix de l'immobilier il y a quelques mois, qui choisissent d'aller vivre hors de Paris ou hors des grandes métropoles, ce qu'on appelle la démétropolisation. Dire à quel niveau ce sera dans les années qui viennent, c'est compliqué, mais dire que c'est un phénomène qui s'observe partout en Europe et avec une intensité, on va dire, exacerbée par la crise, c'est une réalité aussi.
Est-ce que la SNCF a fait assez pour le pouvoir d'achat? Je suis allé regarder les prix pour partir en vacances à la Toussaint, sur le week-end du 1er novembre typiquement. Je vous mets au défi sur un Paris-Marseille de me trouver quelque chose qui ne soit pas trop trop cher. Vite, pour une famille de 4 personnes, vous êtes à 500-600 euros sur l'aller. Est-ce que la SNCF a fait assez? Est-ce qu'ils font assez?
En tout cas, moi je leur ai demandé 2 choses il y a un peu plus d'un an, en vue de l'été que nous venons de passer. C'était un, de faire la transparence financière pour les prix. C'était important parce que quand ils ont appliqué, et c'est historique, depuis plusieurs années, un système qui s'approche d'ailleurs de celui de l'aérien en fonction de l'offre et de la demande, avec des prix qui parfois ne sont pas suffisamment transparents pour les usagers. Or, la SNCF est un groupe public, avec de l'argent public, et c'est très bien ainsi. Mais donc, transparence financière, économique. Ça, c'était le premier sujet. Et puis, deuxièmement, revoir les grilles tarifaires, et notamment faire beaucoup plus de petits prix. C'est ce qu'on a fait cet été, avec plusieurs 5 millions de mémoire de billets vendus à moins de 39 euros.
Mais
avec
pour
des
être très honnête, personne ne... C'est vrai ce que vous dites, mais vendu. Personne ne s'en rend compte encore aujourd'hui.
Ouais, parce qu'on parle souvent pas de ce qui marche bien. C'est-à-dire que quand vous avez des billets pour les moins de 12 ans à 8 euros, votre calcul, pour le coup, ne marche plus. Les Français en ont beaucoup profité. On en a eu 20 millions d'usagers du rail. Beaucoup de Français qui ont choisi de partir en vacances en France avec leur famille. Et avec les nouvelles cartes, je vais faire la pub de la SNCF en longueur, mais avec la nouvelle carte Avantage, qui est d'ailleurs plébiscité par un certain nombre de Français, vous avez avec cette carte...
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'ils en ont fait assez, c'est très bien. Et...
En tout cas, les nouvelles offres, on n'en fait peut-être jamais assez, si c'est sans autre question, mais en tout cas, les nouvelles offres, elles ont permis d'abord de prendre acte des grands changements, on parlait du télétravail, et deuxièmement, d'avoir une vraie politique de petits prix, notamment
mais
pendant l'été.
Justement, si on poursuit sur ce télétravail, et si vous dites que la SNCF prend acte de ces grands changements, elle envisage peut-être de supprimer la première classe.
Ah, une voiture de première classe.
Enfin, une voiture, pardon, de première classe. Est-ce que vous y êtes favorable?
En fait, le sujet, c'est de la première classe, ce sont essentiellement des voyageurs pour des besoins d'affaires. On anticipe, je le disais, et c'est vrai aussi sur l'aérien, que ces voyageurs d'affaires vont plutôt moins prendre le train dans les années qui viennent. Donc il y a un ajustement dans la composition des trains, peut-être temporaire d'ailleurs.
Donc vous y êtes favorable?
Vous savez, moi je suis favorable au pragmatisme. Donc si à un moment, pour que la SNCF fonctionne bien, on a temporairement une voiture de première classe en moins parce qu'on n'arrive pas à la remplir, économiquement, ça fait sens. Après, je ne suis pas patron de la SNCF.
L'avenir pour se déplacer, c'est les petits prix. Hein, c'est ce que vous nous dites, hein, Jean-Baptiste Djebbari.
C'est important notamment pour les jeunes.
Oui, oui, tout à fait. Vous êtes le ministre délégué chargé des transports. Comment allons-nous voyager demain? On va continuer à en parler. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Comment voyagerons-nous demain? Émission spéciale avec un invité exceptionnel, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué chargé des transports.
Alors on va y revenir plus en détail avec vous, Jean-Baptiste Djebbari, concernant l'hydrogène, parce que je sais que vous y êtes très favorable. On en parlait hors antenne, je crois que vous avez même conduit un train
avec Olivier et un train à hydrogène à Valenciennes il y a maintenant 3 semaines.
Expérience formidable.
Expérience formidable parce que le train à hydrogène, c'est donc un train avec un moteur électrique, une fois que vous avez... utiliser l'hydrogène. Olivier explique ça très bien.
Notre prochain invité,
Et c'est un train donc, qui ne pollue pas, évidemment, mais qui ne fait pas de bruit et qui ne vibre pas. Donc en termes d'expérience pour un utilisateur, c'est absolument...
Alors, il pollue encore un petit peu, puisque c'est des trains qui n'utilisent pas obligatoirement de l'hydrogène vert. Mais ça, on va y revenir aussi.
C'est la production d'hydrogène.
On va y revenir. Alors, il existe déjà des voitures à l'hydrogène, des Toyota, des Honda, mais rien du côté des véhicules haut de gamme et du côté français. Et nous, évidemment, la France bouge. On l'a trouvé. Bonjour Olivier Lombard.
Bonjour à vous.
Vous êtes le fondateur d'Opium. Alors je le dis pour nos auditeurs, Opium, ça s'écrit H-O-P-I-U-M. Olivier Lombard, vous êtes un pilote automobile. Vous avez été le plus jeune vainqueur des 24 heures du Mans. C'était en 2011. Vous étiez alors âgé de 20 ans.
C'est ça.
Et Opium, c'est une berline à hydrogène haut de gamme. Comment vous est venue cette idée qui est quand même très originale?
Alors c'est vrai que mon passé finalement a quand même beaucoup aidé. Voilà, parce que je savais ce qu'était de piloter une voiture, finalement une voiture assez performante. Ça a été une grosse partie de ma vie de pilote de course. Et puis ensuite, je suis passé au pilote de développement d'une voiture de course à hydrogène pendant plus de 7 ans. Et c'est là où finalement, je me suis rendu compte, j'ai appris, compris finalement ce que c'était que la technologie hydrogène. Alors, pour expliquer pour les auditeurs, finalement, le principe de fonctionnement est extrêmement simple. On a une pile à combustible dans laquelle on envoie de l'oxygène et de l'hydrogène. Et donc, il y a des réactions électrochimiques qui se passent dans ce système et qui permettent de générer de l'électricité, qui permet in fine de propulser le véhicule.
Et vous, ce qui est impressionnant, c'est l'une des forces aussi de votre prototype, c'est la charge très rapide, puisqu'on ferait le plein, grosso modo, comme une voiture normale. 3 minutes, c'est fait le plein.
Oui, complètement. En fait, c'est vraiment l'avantage de l'hydrogène, c'est que finalement, on n'a aucun changement dans la routine de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à une station à essence, on met 2-3 minutes pour remplir sa voiture. Avec une voiture à hydrogène, c'est la même chose. Finalement, c'est 3 minutes de recharge pour une autonomie de plus de 1000 km avec notre voiture.
Donc ça, c'est pour l'hydrogène. Mais racontez-nous un petit peu votre voiture. Je crois qu'elle est produite au nord d'Arpajon, c'est ça, dans un atelier de production, c'est ça?
Effectivement, oui. On a des centres d'essai qui sont à Montlhéry, sur l'autodrome de Montlhéry.
Donc, et qui travaille dessus? Comment ça marche en ce moment? Qui est en train de faire en sorte qu'on puisse un jour tester, voire acheter cette voiture?
C'est vrai que nous, on a lancé la société en octobre l'an dernier. Donc, ça fait à peu près pratiquement un an pile. Et finalement, on a été très, très vite dans notre roadmap et dans notre développement. On a réussi à développer justement un premier prototype qui a été essayé par monsieur le ministre il y a quelques jours. Et on continue notre roadmap avec donc l'objectif de la commercialisation de la voiture.
Vous êtes
en 2025.
Nombreux autour de...
Oui, on est une cinquantaine maintenant.
Cinquante personnes.
En 2025, je crois. Mais pourquoi miser sur quelque chose de très très haut de gamme? Parce que le prototype, c'est une vraie grosse berline, très très belle par ailleurs. Mais pourquoi le très très haut de gamme? Parce que l'hydrogène, ça coûte très cher aujourd'hui pour que ça puisse être rentable?
Je pense que tout d'abord, c'est que l'automobile français doit faire rêver à nouveau. Et je pense qu'on va essayer vraiment d'y contribuer. Et on essaie de... Voilà, tout ce qu'on fait doit vraiment transpirer ça, doit contribuer vraiment au renouveau de l'automobile français. Et effectivement, pour nous, le haut de gamme, c'est aussi un moyen finalement d'avoir une certaine créativité supplémentaire.
Elle est quand même super chère, elle est très très haut de gamme. Rappelez-nous, le prix, ce sera dans les...
C'est 120 000 euros.
120 000 euros. Ah oui. Jean-Baptiste Djebbari, vous êtes le ministre chargé des transports. Vous l'avez testé, cette voiture haut de gamme à hydrogène?
C'est vrai, c'était très agréable. Mais au-delà de ça, peut-être je reviens sur la dimension du prix. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y a un type qui s'appelle Elon Musk. Pas faire rougir Olivier et dire que c'est le nouveau Elon Musk, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais qui a fait exactement la même chose avec le véhicule électrique et qui s'est dit une voiture, c'est fondamentalement.
Dont tout le monde s'est moqué au démarrage.
Tout le monde s'est moqué, mais avec une stratégie par le haut de gamme. Il a dit moi, je produis des voitures performantes et chères. Avec l'argent que je vais récupérer, je vais investir sur un modèle intermédiaire qui est actuellement le modèle le plus commercialisé en Europe, le modèle 3 de Tesla. Et il a dit un jour, je fabriquerai la Trabant, la voiture plus populaire électrique quand je serai à taille critique. Je pense que c'est une bonne stratégie d'entrer par le haut de gamme et sans trahir le secret, je crois comprendre que c'est aussi peut-être un des points de diversification d'Opium. Et donc, voilà, je crois qu'il faut aussi tirer les leçons d'un passé proche.
Elon Musk, justement, si on prend ce parallèle, si ça marche, c'est parce qu'il a inventé aussi des pompes de recharge extrêmement rapides pour ses voitures électriques. Là, pour l'hydrogène, on n'a rien en France. Impossible de faire Paris-Marseille en voiture à hydrogène. Quand est-ce que vous allez nous sortir des pompes
en voiture électrique,
en voiture à hydrogène, en voiture à hydrogène.
Alors, c'est pas tout à fait vrai qu'on a rien. On a maintenant quasiment une centaine de stations, une vingtaine autour de Paris, et c'est notamment les stations qui sont utilisées par des taxis. Parce qu'en fait, les modèles d'utilisation aujourd'hui, c'est plutôt la mobilité lourde, on a parlé, hein, les bus, les trains.
Mais on voit que pour le développement de la voiture électrique, ce qui freine aujourd'hui, c'est l'absence. Pas encore assez. Donc pour l'hydrogène, est-ce qu'on ne peut pas en mettre avant même qu'on arrive pour les voitures?
Le véhicule électrique, ça progresse. On aura d'ici à la fin de l'année.
Gentiment, piano.
Non, honnêtement, je sais que c'est la petite musique, mais on peut se comparer.
Non, je vous assure.
On teste. Je vous assure, je suis devenu. Plus qu'expert sur le sujet. On a 710 000 bornes. On aura 1 million de bornes d'ici la fin d'année.
Alors, concentrer au même endroit. Alors.
Non, parce qu'en fait, le vrai sujet, et je vais être très, très clair avec vous, on a 710 000 bornes. Elles sont centrées ou plus ou moins, déployées aujourd'hui dans les entreprises et chez les particuliers. On est en train d'équiper les grands axes routiers, autoroutiers.
Il faut les stations-service, les aires d'autoroute.
Les copropriétés.
La moitié des grands axes routiers, autoroutiers seront équipés d'ici la fin de l'année. La totalité d'ici fin 2022. Et quand on se compare d'ailleurs avec les Allemands, on est devant les Allemands en Europe. Donc on peut aussi se consoler. Il nous reste un sujet, vous avez raison, c'est d'équiper les copropriétés et ou fonctionner avec des hubs de recharge rapide, plutôt sur la voirie, autour des stations-service, des parkings publics, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Sur l'hydrogène, on aura moins besoin, parce que par nature, les autonomies sont importantes, c'est quasiment 1000 km d'autonomie sur la voiture d'Olivier, mais il faut là aussi raisonner en hub de recharge. On a un plan hydrogène de 7 milliards d'euros français qui a été lancé, et évidemment la distribution de ce nouveau combustible est au centre de nos préoccupations. Donc plutôt autour de hubs de recharge urbains, là où on concentre les utilisations.
Si je peux me permettre, c'est vrai que
Olivier Lombard,
c'est toujours pareil, je pense qu'on part d'un point A pour aller à un point B, et aujourd'hui, effectivement, il y a un réseau de stations qui est en train de se développer, avec l'objectif justement qu'il n'y ait pas de problème au moment où les gens mettront en contact sur une voiture à hydrogène, qu'il n'y ait pas justement cette anxiété qu'on peut vraiment sentir chez les utilisateurs des voitures électriques.
Bien sûr.
Mais voilà, encore une fois, il y a énormément de choses qui sont en mouvement pour que, justement, il y ait des infrastructures qui soient développées.
Olivier Lombard, on peut déjà la précommander, votre voiture ?
Bien sûr, oui, on peut la précommander.
On fait comment ? Ça peut intéresser des personnes qui... Tout sera prêt donc pour 2026 ?
C'est pour 2025, oui.
Avec toute la logistique de production qui est prête, qui sera prête d'ici là ?
Oui, c'est en fait ce qu'on veut, c'est vraiment être le nouveau projet industriel français. Donc aujourd'hui, on est dans des étapes de développement. Et puis ensuite, on va arriver dans des étapes.
Et vous avez assez de sous pour financer tout ça? Comment vous financez un tel projet?
Par des levées de fonds, si vous voulez. C'est finalement comme une start-up.
Classique.
Voilà.
Et puis, il y a plein de choses. On a fait des records pour les levées de fonds pour nos start-up cette semaine. Donc, on le dit là aussi.
Il y a beaucoup d'appétit sur les sujets de la transition énergétique dans le secteur automobile, dans l'aviation. Et c'est vrai que. Et c'est une bonne nouvelle.
Mais c'est une bonne nouvelle. Des voitures à hydrogène haut de gamme, comme la vôtre, Olivier Lombard. Vous êtes le fondateur d'Opium. Merci d'être venu dans La France Bouge nous la présenter.
Et Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué chargé des transports, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1. La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Comment va-t-on voyager demain ? Émission exceptionnelle avec un invité qui l'est aussi, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transports. Alors, ça peut paraître complètement fou, Jean-Baptiste Djebbari. On vit en ce moment des records d'embouteillage dans les grandes villes. Après le Covid, les gens ont repris leur voiture. Ils ne veulent plus aller, semble-t-il, vers les transports publics. Déjà, est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que vous la vérifiez en ce moment ? Et comment on fait alors, du coup ?
Il y a plusieurs phénomènes. D'abord, on a vu pendant les grèves et pendant le Covid... un grand report sur le covoiturage et le vélo. Et l'adoption du vélo est restée à demeurer. Et c'est une bonne nouvelle. On a en même temps fait sortir de terre plus de 13 000 km de pistes en plus de celles qui existaient déjà. Mais c'est vrai qu'on a vu, depuis la reprise réellement du trafic et de l'activité économique, on a vu les gens reprendre leur voiture, probablement pour des considérations de sécurité sanitaire ressenties et pour le coup délaisser un peu les transports en commun. C'est moins vrai hors de la région parisienne, dans les réseaux de province où là on est quasiment à 100% du trafic de 2019, mais c'est vrai qu'en région parisienne...
C'est vrai aussi à Lyon où malgré tout on n'est pas revenu au 100%,
dans
les très très grands centres de métropole.
Dans les très grandes métropoles, on est en dessous du niveau de 2019. C'est singulièrement le cas en Ile-de-France. On a quasiment 30% de fréquentation en moins sur le métro. Ce qui est énorme parce que du coup, d'abord, on ne pense pas récupérer les 30% dans les 6 mois qui viennent. On a parlé tout à l'heure de télétravail, d'une forme de démétropolisation. Et par ailleurs, on est en train de faire des investissements considérables sur les réseaux de transport urbain.
Pour qu'ils arrivent un petit peu plus à l'heure. Non, c'est vrai, parce que dans les grandes villes, les trains que l'on prend quotidiennement sont souvent de mauvaise qualité, pas toujours à l'heure, bondés. Donc vous dites que c'est pour désenclaver, mais c'est aussi pour restructurer tout ça.
Pour donner plus de qualité de service. Vous savez, le Grand Paris Express, c'est 200 km de lignes de métro en plus, automatique. Donc certaines vont être livrées entre 2024 et après. Donc c'est,
et surtout après.
On double quasiment, et on a déjà le plus gros réseau de métro du monde, et on double encore ce nombre de kilomètres de lignes de métro. Après, c'est vrai ce que vous dites, c'est pour ça qu'on investit beaucoup dans le renouvellement des matériels roulants, c'est plusieurs milliards d'euros. Mais il faut trouver un équilibre économique entre les investissements que vous faites, le prix qui est payé par
les usagers, retour.
Et évidemment la capacité à désenclaver les territoires. C'est vrai dans le boulevard périphérique comme dans les territoires.
On va rester dans le métro si vous voulez bien, Jean-Baptiste Djebari, parce que chaque jour dans La France Bouge, on découvre un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays. Parce que oui, le métro a des défauts, mais c'est aussi bien pratique, comme le disait Emmanuel. Donc aujourd'hui, on va vous parler du métro qui est né au tout début du XXe siècle à l'occasion de l'exposition universelle de Paris.
Et c'est Charlotte Barrican de La France Bouge qui nous raconte l'histoire du métro.
Europe 1. La France bouge, la saga.
En 1900, Paris accueille l'exposition universelle et à cette occasion, elle inaugure son premier métropolitain, la ligne 1, qui relie à cette époque la porte Maillot à l'ouest jusqu'à la porte de Vincennes à l'est. C'est une révolution pour les habitants de la capitale. L'objectif, ne laisser aucune rue à plus de 500 mètres d'une bouche de métro. L'État a donc confié à la CMP, la Compagnie du chemin de fer métropolitain, le soin de construire tout le réseau, de la ligne 1 à la ligne 6, mais le chantier est bien trop gros pour un seul acteur. Song Fan-Kam, responsable de l'identité sonore et visuelle à la RATP.
En 1902, un ingénieur lyonnais, Jean-Baptiste Berdier, a approché la ville de Paris et il voulait proposer à la ville de créer son propre réseau, mais sur ses fonds propres. La ville de Paris trouvait que c'était une excellente opportunité puisqu'elle n'avait pas à financer de ses fonds la création de lignes complémentaires. Donc on lui attribua une concession pour exploiter les lignes A et B du réseau Nord-Sud. Et ces lignes A et B, en fait, correspondent aujourd'hui aux lignes 12 et 13 actuelles sur une partie de leur trajet. Les lignes 12 et 13 sont bien antérieures à certaines lignes de métro, dont la 10, la 11, par exemple.
Pendant de longs mois, les rues de Paris sont éventrées, les chantiers sont énormes et il faut imaginer des entrées pour accéder au métro. La ville fait alors appel à l'architecte français Hector Guimard. C'est à lui que l'on doit ce que l'on appelle des édicules. Ce sont des structures en fer vert qui surplombent les stations et que l'on peut toujours contempler à Châtelet, Louvre-Rivoli ou encore Château d'Eau. Les années passent, de nouvelles lignes sont construites et surtout repensées, notamment avec l'apparition de la ligne 14 en 1998 où on ajoute un système de son.
Les ingénieurs de la RATP à l'époque ont profité pour installer ce système d'annonce sonore. L'idée a été de faire des choses assez simples et d'annoncer les stations en deux fois. Le premier nom de station sur une intonation montante, par exemple Châtelet. De cette façon, l'oreille entend un son. Si elle a reconnu le nom de la station, tant mieux. Si elle ne l'a pas reconnu, l'oreille sait que la phrase n'est pas terminée, la séquence n'est pas terminée et il y a quelque chose qui va suivre. Et quelques secondes plus tard, on entend Châtelet sur un ton plus concluant, ce qui permet de dire qu'on est arrivé à la station. Et donc, cette petite grammaire du métro parisien est devenue tellement identitaire au réseau que c'est toujours amusant de voir les enfants et même les adultes s'amuser à répéter le nom des stations.
Et pour aller plus loin, au même titre que chaque ligne de métro a sa propre couleur, chacune a aussi sa propre voix, mais parfois cette voix on ne l'entend plus. C'est le cas dans ce que l'on appelle les stations fantômes.
Ce sont des stations qu'on a fermées en 1939 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, car il fallait mobiliser le personnel à l'effort de guerre et aussi commencer à faire des économies. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des stations ont rouvertes, mais pas toutes. On a par exemple Saint-Martin à côté de République qui n'a pas été rouverte, Croix-Rouge à côté de Sèvres-Babylone, la station Champ-de-Mars à côté d'École militaire. Toutes ces stations n'ont pas été rouvertes car jugées trop proches d'autres arrêts. Il existe donc aussi des stations qui n'ont jamais été ouvertes. C'est le cas de la station qu'on appelle AXO dans le 20e arrondissement. Il n'y a que le quai et les accès vers l'extérieur n'ont pas été construits.
Le grand projet de la RATP, c'est le Grand Paris Express. Le but, mieux relier Paris et les banlieues et surtout les banlieues entre elles, avec le prolongement de la ligne 11 et la création de la ligne 16 qui sera la seule ligne de métro à ne pas traverser la capitale.
Et on est donc avec Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué chargé des transports aujourd'hui. Vous avez rompu cette semaine avec la SNCF le contrat qui vous liait pour rénover et repenser toute la gare du Nord. Alors la raison officielle, c'est que ça n'aurait pas été prêt pour 2024 et que les prix étaient en train de s'envoler par rapport à ce qui était prévu. Le projet est totalement abandonné ou vous cherchez un nouveau partenaire ?
La raison officielle qui est la raison réelle, c'est qu'on a eu un projet qui avait commencé à 600 millions d'euros et qui finit ou qui aurait fini à plus d'1,5 milliard.
Donc, ça, à la rigueur, c'est traditionnel.
Ouais, enfin, c'est pas tout à fait normal d'avoir des projets qui glissent d'un milliard. On parle quand même aussi là d'argent public. Et pareil, en calendrier, on avait un projet qui était annoncé avec 2 à 3 ans de retard. Donc, la SNCF, en lien avec l'État, décide de faire, c'est de dénoncer le contrat et de faire deux choses. D'abord, répondre au sujet de l'aménagement à court terme, parce que cette gare, vous la connaissez, la gare du Nord, elle est très verticale. Enfin, c'est compliqué de
s'y déplacer. Et il y a d'énormes problèmes d'insécurité, pareil.
D'insécurité, d'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, il faut faire un travail sur essentiellement les escalators, les ascenseurs pour verticaliser un peu.
Mais de façon concrète, donc il y a un nouveau projet qui va être mis sur pied ?
Mais plutôt réduit pour être au rendez-vous des objectifs 2023 et 2024. Et dans la foulée, on reverra avec l'ensemble des acteurs concernés un projet de plus grande ampleur avec l'ambition de faire aussi de la capacité.
Du coup, vous cherchez un nouveau partenaire pour faire les travaux d'une
certaine manière. Ça n'est pas encore arrêté, mais en tout cas, je l'ai dit en deux temps. D'abord, un projet pour aménager, améliorer les flux 23-24, et puis un projet de plus grande ampleur.
Et puis, il y a les petites lignes aussi que vous êtes en train de relancer, toutes ces petites lignes ferroviaires. De façon concrète, quel est votre plan là-dessus ?
Alors, je suis très content que vous en parliez parce que c'est un peu ma marotte et j'avais commencé à y travailler comme député à l'époque puisque j'avais été rapporteur du texte et j'avais demandé, alors que tout le monde voulait fermer, enfin beaucoup voulaient fermer ces petites lignes ferroviaires, ces 9000 km de petites lignes, d'abord un, de faire un rapport sur l'état et le besoin de financement de ces lignes et deux, d'essayer de reconstruire un modèle viable. Donc ce qu'on a fait, on a 9000 km, on s'est dit sur les lignes les plus circulées, l'état reprend la main. Sur les lignes intermédiaires, on cofinance avec les régions et sur les lignes d'intérêt local, les régions peuvent prendre la main et tester des nouveaux modèles, avec des trains très légers, avec des navettes autonomes peut-être demain, bref, faire de l'innovation. On a signé un protocole avec 8 régions sur les 13, c'est un protocole tout cumulé de 5 milliards d'euros sur les 6,5 milliards. On a déjà rénové sur les 9000 km à peu près 1000 km de lignes. Ce sera 1500 d'ici la fin du quinquennat.
Lesquelles ?
Et l'objectif, alors plein de lignes partout dans le territoire, encore une fois, 8 régions ont signé. Mais l'idée, c'est d'abord, un, de sauver notre réseau secondaire, parce que ça correspond aussi parfois dans les territoires au sentiment d'abandon par la puissance publique, par l'État.
Et surtout au moment où les gens, pour certains, quittent les grands centres-villes. Donc
si,
pour y vivre, il faut pouvoir se transporter.
Et puis parce que c'est un territoire d'innovation. Honnêtement, ça n'a fait pas de sens de faire du TER lourd au tiers rempli sur des lignes qui sont très peu circulées. Il faut trouver d'autres modèles. Et encore une fois, on parlait avec Olivier de la voiture à hydrogène. Il y a plein de modèles qu'on peut inventer, du train léger à hydrogène dans ces territoires.
Ou des navettes autonomes, par exemple, qui peuvent devenir l'avenir.
Y compris des navettes hybrides qui roulent à la fois sur la route et sur le réseau ferroviaire. Enfin, c'est un champ d'expérimentation incroyable.
Le grand sujet du moment, c'est que tout le monde, tous les candidats à la présidentielle veulent renationaliser nos autoroutes, Marine Le Pen, Arnaud Montebourg, ou du côté du Parti communiste. Tous posent la question du fait que ça nous coûte trop cher, hein, nous automobilistes. Alors, vous avez dit que vous étiez contre la nationalisation, on va pas revenir dessus, mais pourquoi pas ?
J'ai dit que c'était démagogique, j'ai pas dit que j'étais contre par principe. J'ai dit qu'il se trouve que les concessions ont été d'ailleurs négociés dans un autre temps politique, avec certains des acteurs que vous avez cités.
Sauf qu'attention, le ministre de l'économie est quand même celui qui a signé le contrat, donc pas trop de critiques sur peut-être votre
Que par
votre
ailleurs, qui n'était, je crois, pas du tout, qui était dans l'équipe
gouvernementale. Il était le directeur de cabinet de Villepin quand
il n'était pas le ministre à l'époque.
Donc, il a signé le contrat quand même.
Bon, bref, et ces contrats, ces concessions, elles arrivent à échéance en 2031, donc elles reviennent dans le giron de l'État. Sauf que comme on est lié, l'État, par contrat avec ces concessions, soit on rompt le contrat et on indemnise, État de droit, les contrats s'appliquent, et on indemniserait les sociétés concessionnaires à hauteur de 45 à 50 milliards d'euros, soit effectivement, on conçoit le futur des autoroutes à compter de leur échéance, c'est-à-dire à compter de 2030.
Mais est-ce qu'on demande aujourd'hui aux concessionnaires autoroutiers de faire un effort, de dire on a besoin en ce moment de pouvoir d'achat, donc vous baissez les tarifs ?
Évidemment qu'on leur a demandé. Vous parliez de la voiture électrique tout à l'heure. On est en train de déployer, je l'ai dit, d'ici fin 2022, des bornes sur l'ensemble du réseau autoroutier. C'est un effort qui a été consenti pour partie par l'État, à hauteur de 500 millions d'euros par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, sans augmentation du prix des péages, sans allongement de leur durée de concession.
Il y a des augmentations naturelles. Tout ce qu'ils font en travaux, dans tous les cas, c'est lissé sur des années derrière.
Qui sont liés par contrat, et c'est bien sûr une augmentation à 0,7% de l'inflation, pour être précis. Donc
on ne leur demande pas de baisser les tarifs, parce que dans tous les cas, c'est quasi impossible.
Mais on leur a demandé d'ailleurs d'être beaucoup plus innovants sur les tarifs. Dans les nouvelles concessions, d'ailleurs, c'est quasiment systématiquement inclus, de favoriser par exemple les véhicules propres, de favoriser ceux qui font du covoiturage. Donc évidemment qu'on va vers ça. On enlève les barrières, on fait du free flow maintenant sur les nouvelles concessions autoroutières. Donc il y a beaucoup d'innovations aussi sur les autoroutes, les nouvelles autoroutes.
Jean-Baptiste Djebari, on va bientôt pouvoir enfin retourner aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle pour les voyageurs vaccinés, j'entends. C'est une bonne nouvelle pour nos avions, ça ?
Alors, c'est une bonne nouvelle pour nos avions, nos compagnies aériennes qui connaissent des temps encore compliqués. On avait eu un espoir en juin dernier, mais ça s'était refermé. Et effectivement, à compter du 1er novembre prochain, nous pourrons repartir sans restriction autre que celle effectivement, d'être doublement vaccinés vers les États-Unis et d'une manière générale la PAC américaine.
Travailler pour la même chose sur l'Asie, parce que c'est l'autre grand problème. Ouais. Air France ne pourra jamais s'en sortir si les vols vers la Chine ne reprennent pas.
Pour les opérateurs aériens, dont la France, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment en Amérique latine, aux États-Unis jusqu'à début novembre, et évidemment
et ensuite,
en Asie, notamment la Chine.
Le dossier de l'Asie.
Après, ça renvoie à des politiques de stratégie sanitaire de ces pays-là.
Mais ça veut dire
la Chine a une stratégie extrêmement fermée, c'est-à-dire qu'elle veut zéro Covid. Et dans un monde par nature ouvert, avoir zéro Covid et complètement contrôler la circulation du virus pour qu'il ne circule pas, c'est évidemment...
Ça signifie qu'il faudra encore aider peut-être Air France ?
Ça veut dire qu'on a fait quand même, je crois, ce qu'il fallait. On a fait...
Mais ça suffit ?
Parce
que c'est ça la question d'Elisabeth.
Oui, je viens, du coup je réponds à ces deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des prêts. On a converti une partie de ces prêts en actions et l'État est remonté à 33% environ du groupe Air France KLM. Quand on regarde les projections de trafic, on pense qu'on est au bon niveau d'aide. Et là, le groupe a fait à peu près 65% cet été de son trafic historique. Donc les choses, d'ailleurs, vont un peu mieux pour Air France KLM quand on le compare à d'autres grands groupes.
Donc ça suffit, vous n'allez plus les aider ?
Pour l'instant, quand on évalue les besoins en trésorerie, en cash, ça nous semble correspondre, mais on a appris à être prudent en la matière.
Jean-Baptiste Djebari, on va vous demander maintenant de coacher, d'accompagner. Allez, une entrepreneur qui se lance, vous êtes prêt ?
Je vais être business angel alors.
Allez, c'est parti.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
On parle de comment nous allons voyager demain, y compris dans ces trophées de l'avenir Europe 1 à la France Bouche. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre, pour ça ils défendent leur projet devant l'œil attentif de notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui Jean-Baptiste Djebari, qui est le ministre délégué chargé des transports. Et bien évidemment, comme chaque jour, nous aurons Nathalie Carré de la Chambre de Commerce et d'Industrie, que l'on va retrouver dans un instant.
Et on vous présente un projet d'entreprise lancé il y a un an. Bonjour Cédric Collao.
Bonjour à tous,
vous
merci
avez 29
de
ans.
M'accueillir.
Ah ben, nous aussi, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes le cofondateur de Bicycle, B-I-K LE, c'est un vélo électrique personnalisable. Tout est fabriqué à Annecy. Je crois que vous avez fait votre baptême de vélo électrique à Paris ce matin et ça change Annecy.
Ouais.
Les précommandes sont ouvertes. Allez, on va vous laisser une minute pour nous le vendre, votre vélo. C'est parti.
Voilà, donc c'est un projet que j'ai imaginé avec Tristan, mon associé, qui lui est ingénieur dans l'industrie automobile. Moi, j'étais prototypiste dans l'industrie moto. Donc c'est un projet qui est né de cette rencontre. Nous, l'année dernière, on a voulu se mettre au vélo un peu comme tout le monde. On a les villes qui s'adaptent donc à ces nouvelles mobilités. Et on ne trouvait pas d'offres adaptées à nos envies. Donc on a cette culture un peu moto, café, racer et autres. Et on a imaginé en fait le vélo de nos rêves. Donc c'est un vélo qu'on a présenté à une startup week-end donc en octobre l'année dernière. Et on l'a industrialisé cet hiver. On s'est appuyé sur un réseau local d'entreprises pour fabriquer le cadre, donc l'usinage, le cintrage, la peinture, la sellerie. Tout ça dans un rayon de 50 km autour d'Annecy. Et donc le vélo Bicycle, c'est la contraction de bike et motorcycle. C'est un vélo qui a une position de conduite un peu façon motard. Et on se sent à l'aise dessus, en sécurité, parce qu'il y a des gros pneus confortables, des bons freins et une selle confortable. Donc c'est l'inspiration moto appliquée au vélo avec les avantages du vélo, 25 km/h et quelque chose de léger, pratique en ville.
Et bien voilà, bravo pour votre pitch, bien évidemment.
Joli, hein.
Il est hyper joli, mais tout le monde doit être en train de se dire, c'est gentil, mais ça coûte combien cette petite histoire ?
Ça,
c'est mon job.
Mignon.
2500 euros et le plus haut de gamme qu'on appelle le modèle S, si je ne dis pas d'annerie, est à 3500 euros.
C'est quoi le plus haut de gamme ? Parce qu'on est plus confortable ?
Alors S, c'est pour suspendu en fait. On a fait le modèle suspendu à 3500 euros. Donc, il y avait la version originale à 2005. Qui est notre entrée de gamme. Et en fait, c'est un vélo qui est personnalisable. On peut choisir la couleur des pneus, la couleur de la selle, des choix de guidon.
Ah oui, il est personnalisable.
Et vous avez joué un peu la rareté quand même, parce que de ce qu'on nous a dit, vous prévoyez d'en fabriquer 150 par an. Et à horizon 5 ans, si vous en faites 1000 par an, ça vous paraît très bien. Vous dites que vous préférez la qualité à la quantité.
Exactement, c'est vraiment l'objectif pour nous d'avoir un taux de satisfaction à 100%, que chacun soit content de ce qu'il a acheté, qu'il ait le vélo qui lui corresponde, qu'il prenne du plaisir avec et que l'expérience client elle soit à son maximum. Et pour nous, c'était vraiment la qualité avant la quantité.
Bonjour Nathalie Carré.
Bonjour Elisabeth, bonjour Cédric, bonjour Emmanuel.
Coucou. Mais Nathalie en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, vous êtes très vélo électrique vous Nathalie,
on le sait. Alors
quelles sont les forces et les faiblesses selon vous de Bicycle?
Je suis train électrique moi. Alors sur votre site vous dites le vélo qui a de la gueule, mais c'est vraiment tout à fait ça. Vous avez vraiment cassé les codes du design du vélo, c'est bébé sur sa Harley Davidson en fait.
Exactement. Donc,
voilà, la phrase en fait c'est pas nous qui l'avons inventée, c'est juste qu'à chaque fois qu'on monte le vélo, c'est la réflexion qu'on nous fait à chaque fois. Il a de la gueule.
Ah ouais,
et du coup, on l'a gardé. Ça arrivait avec Bicycle.
Donc, bravo aussi pour la customisation du vélo, le fait de pouvoir essayer avant d'acheter, pour la durabilité, le côté authentique qu'on voit dans votre vidéo de la fabrication du vélo. Alors, j'ai juste une remarque et deux idées. Au-delà du style, il y a quand même le confort et la sécurité. Là, je trouve que ça manque un peu d'informations pratiques. Par exemple, sur les vélos sans garde-boue, comment ça se passe les jours de pluie? Sur le modèle sans phare avec juste une loupiote, est-ce que ça éclaire assez? Il semble que tous les modèles, d'ailleurs, n'aient pas de lumière arrière. Est-ce que ce n'est pas obligatoire? Est-ce qu'on est aussi bien dessus quand on fait 1m50 ou 1m90? Et puis, vous avez plusieurs styles de guidons, mais c'est quoi les conseils pour choisir le bon guidon? Bref, après le yaou, le côté waouh, plutôt pas yaou, il y a le pragmatisme.
On puis, peut le chercher sur yaou si on...
Ça fait beaucoup de questions. Effectivement, le modèle original est bien livré avec un éclairage avant-arrière, puisque c'est réglementaire, c'est obligatoire. Donc, c'est des vélos qui sont homologués 25 km/h, c'est des 250 watts, vélos assistance électrique. Et puis, au niveau de la position de conduite, c'est des vélos qu'il faut essayer. Vous pouvez les essayer sur Paris, sur Marseille, sur Oléron. On a quelques lieux de vente aujourd'hui où on peut aller essayer les vélos et même les louer. À Oléron notamment, puisque c'est un vélo qui est aussi bien agréable à utiliser en ville, sur les pavés, sur les gros pavés, que sur la plage et sur le sable.
Allez, les conseils.
Pour étendre rapidement votre nombre de points de test, parce que je suppose que ça déclenche l'achat, peut-être que vous pourriez proposer à vos utilisateurs actuels de devenir des ambassadeurs et de faire tester leur propre vélo quelques heures par mois, évidemment contre un cadeau, puis un système de sécurité pour que le testeur ne parte pas avec le vélo.
Exactement. Alors, les meilleurs ambassadeurs de la marque aujourd'hui, c'est les utilisateurs.
C'est les clients.
Et c'est même eux qui nous ont permis de lancer le projet, puisque c'est grâce aux premières ventes qu'on a pu monter l'entreprise et lancer l'industrialisation.
Bon, il vaut mieux être petit ou grand alors pour ce vélo? Non, franchement.
En fait, la selle est longue, donc entre 1m60 et 1m80, tout le monde
est à l'aise.
Et on
peut monter derrière moi, il n'y a pas de problème.
Et on peut monter
à deux dessus derrière.
Si on veut. Il y a des versions long tail qui sont à l'étude. Donc.
Formidable. Notre grand témoin du jour, on a notre ministre, Jean-Baptiste Djebbari, ministre chargé des transports.
Qui aime le vélo.
Et qui aime le vélo. Vous faites du vélo, vous?
Oui.
Vous êtes à vélo à Paris?
Alors, à Paris... pas trop, mais j'ai fait beaucoup de vélo jeune. J'ai un frère qui est cycliste et j'ai même eu l'occasion de faire quelques étapes du Tour de France là, avec les codes un peu compliqués. Croix de Fer, Galibier.
Ah oui, c'est pas du vélo électrique.
Non, ça,
là,
j'ai beaucoup souffert. Et mon frère fait toujours du vélo de course. Non, j'aime beaucoup. D'abord, il faut prendre Nathalie au board parce qu'elle a l'air d'être une future très bonne
entreprise. Le problème, c'est qu'à chaque fois, de toutes les entreprises, on peut la prendre au board.
Voilà. Donc, ça, c'est un premier sujet. Non, j'avais une question sur l'industrie du vélo. Parce qu'on nous dit, et c'est vrai, on l'a observé, je suis allé chez vos collègues de chez Moustache, par exemple, qui, pour le coup, recréent de nouveaux métiers. Et ce qu'on a envie d'essayer de faire, comme on ne produit pas encore beaucoup des batteries, c'est quand même d'essayer d'avoir des nouveaux métiers avec une empreinte industrielle française. Ouais. Donc du coup, quels sont les nouveaux métiers et quels sont les marchés? Est-ce que vous êtes sur des marchés essentiellement domestiques ou est-ce que vous bossez beaucoup à l'export?
Alors aujourd'hui, nous, on bosse principalement en France. La plupart des vélos qui ont été vendus sont donc sur le territoire. Et au niveau de l'industrialisation du projet, c'est vraiment des entreprises locales qui, certaines, ont pu embaucher grâce à ce projet. Parce que la fabrication d'un cadre, ça prend plusieurs heures. Donc, on a créé de l'emploi en local avec les entreprises partenaires avec qui on travaille. Et nous, on a l'intention d'embaucher pour faire plus de volume.
Ça, c'est hyper important. On dit que l'industrie du vélo, c'est 78 000 emplois.
Bah oui, mais direct. Pourquoi vous êtes retiré du projet d'implantation des cycles Mercier qui devait réindustrialiser en France? Ça devait être à Revin et l'État est sorti de ce projet.
Il faut interroger ma collègue Anne Espagnol-Renaché. J'ai entendu ce sujet d'actualité venir à un moment, mais je n'aurais pas d'informations à vous donner. Mais c'est vraiment pas, je ne vote pas en touche. Hein, je préfère ne pas vous dire de bêtises.
Vous êtes Cédric Colao, merci d'être venu dans la France Bouge. Vous êtes le cofondateur de Bicle, un vélo électrique personnalisable. On est tous d'accord, il est très très beau, il a un petit côté vintage. On vous souhaite bonne chance et vous reviendrez nous en parler dans la France Bouge.
Ouais, avec plaisir. Donc toute l'actu peut se suivre sur Instagram, donc Bicle Europe ou sur le site bicle.fr.
Moi, j'aimerais tester du coup.
Il est en bas si vous voulez aller essayer.
Restez quand même encore un petit peu avec nous. On retrouvera Nathalie Carré lundi si vous voulez nous envoyer un mail pour venir présenter tous vos projets. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Jean-Baptiste Djebari, vous êtes le ministre chargé des transports. Vous restez encore avec nous pour la suite et
absolument
la fin de notre
avant
mission.
Avant d'être
le Bicle.
13h53.
Restez avec nous. Comment allons-nous nous déplacer demain? On va continuer à étudier toutes ces questions avec notre invité exceptionnel.
Oui, il paraît qu'il y a un plan d'investissement qui arrive, notamment sur les transports. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va essayer de le savoir.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on est toujours avec Jean-Baptiste Djebari, le ministre délégué chargé des Transports. Le président de la République travaille sur un gros plan d'investissement pour 2030. Certains le présentent même comme une sorte de programme pour la suite. Ce plan devrait être annoncé début octobre, mais bon, semble-t-il que les arbitrages mènent plus de temps. Déjà, est-ce que c'est vrai que le président de la République a trouvé que la copie n'était pas excellente et a demandé un peu à ce que vous retravaillez tout ce que vous en êtes pour rendre ça un poil plus ambitieux?
Peut mieux faire.
Très bien, les discussions qu'on a eues encore mardi dernier autour du président sur le sujet. Non, mais ce qui est sûr, c'est que...
D'abord, en tout cas, vous n'y êtes pas, qu'il a fallu se remettre un peu au travail, quoi.
Non, mais c'est très bien. Vous savez, on parle d'innovation, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on fait vraiment l'innovation de rupture, très très long terme, ou est-ce qu'on fait de l'innovation plus incrémentale, au sens où on améliore un peu l'existant?
Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait
sur mes sujets, qu'est-ce qu'on fait? On va accélérer sur la mobilité électrique. Ça veut dire déployer encore plus de bornes, notamment, on en a parlé, les stations-service, faire des hubs de recharge pour l'hydrogène, etc. Premier gros sujet. Deuxième gros sujet pour notre industrie aéronautique, on va accélérer sur... deux volets. Le premier, c'est la future génération d'avions sobres en carbone, des avions électriques, pure électrique, des avions hybrides, demain des avions à hydrogène. Et puis, à court terme, on va développer ce qu'on appelle les carburants alternatifs au kérosène. Ça aussi, c'est extrêmement concret. C'est typiquement des carburants...
Air France a encore fait récemment un vol...
18 mai dernier, Paris-Montréal, 16% de biocarburants. Alors, c'est quoi les biocarburants avancés? C'est des carburants à base d'huile de cuisson usagée, de biomasse, c'est-à-dire de la paille, du bois.
Et avec ça, on va résister aux Chinois avec tout ça?
Eh bien, en tout cas, je vais vous dire un truc. D'abord, on a mis les bons financements aux bons endroits. Ouais,
attendez, on n'a pas de filière encore volumes aujourd'hui pour ça. Ça coûte une fortune, ces biocarburants.
Ouais, alors, ça coûte entre 3 et 10 fois plus cher. Mais en fait, les filières, c'est on a des gros, gros acteurs. On a Total dans l'énergie, chez les pétrogaziers. On a le groupe Avril, par exemple, pour les exploitants agricoles. On a une filière de chimie qui est absolument incroyable. Et lundi dernier, avec Jean Castex, j'étais chez Orano sur, par exemple, le recyclage des batteries électriques. On sait, donc Orano sur la technologie du recyclage des déchets nucléaires, on sait recycler entre 95 et 100% d'une batterie électrique usagée.
Donc on a vraiment... On a toutes les ressources qu'il faut, toutes les ressources
en ça,
France.
Soyons positifs, on a tous les atouts
et
en
on
France
est
pour
positif
gagner ce nouveau pari industriel.
Et on vous a bien compris. Merci à vous Jean-Baptiste Djebari. Je rappelle que vous êtes le ministre chargé des Transports. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui à la France Bouge. On se retrouve lundi, Emmanuel.
Il paraît. Et je crois qu'on va vous réserver quand même une surprise parce que, allez, on peut le dévoiler puisqu'on a bien déjà travaillé le sujet avec Elisabeth. Vous allez découvrir qu'on n'a jamais vendu autant de parfums dans le monde qu'en ce moment.
Ils sont débordés.
Et on va recevoir le patron d'Interparfums qui est l'un des plus grands acteurs du marché.
Allez, à lundi. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.